Avant de nous lancer, j'aimerais prier. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que oui, en Christ, nous avons la victoire. Merci parce que lui a vaincu le péché et la mort et que lui est ressuscité et vit aujourd'hui et que nous qui sommes en lui, nous vivons. Et nous te remercions également pour ta parole qui éclaire notre chemin, qui nous guide et qui nous conduit dans notre vie ici-bas et qui nous mènera jusqu'à toi, auprès de toi, à la vie éternelle. Et nous te prions pour que ce matin encore tu puisses nous parler, nous éclairer par ta parole, que nous puissions être à l'écoute et que oui, nous puissions prendre le temps de méditer ce passage qui nous fait voir que toi tu as fait briller la lumière dans les ténèbres, dans le pays de l'ombre de la mort, pour racheter ton peuple et l'avoir auprès de toi. Et nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes entrés il y a quelques jours dans cette période que nous appelons la période de l'Avent, période qui précède et qui annonce la fête de Noël. Et je pense que la question que beaucoup d'entre nous se posent aujourd'hui est « Aurons-nous l'opportunité de célébrer cette fête de Noël dans la joie cette année ?» Car voici ce que titre les différents journaux du royaume depuis quelques jours. Cinquième vague, Noël menacé. Un Noël en famille menacé devant la recrudescence du Covid. La menace du Covid plane sur la fête de Noël. Et donc, si l'on en croit nos dirigeants, nos scientifiques, nos journalistes, eh bien, la fête de Noël pourrait être cette année bien triste, bien sombre et morose. Pas de réunion de famille, pas d'ambiance chaleureuse autour d'une belle table, pas de cadeaux à ouvrir, pas d'accolades chaleureuses. Non, au lieu de ça, la possibilité de se retrouver enfermé, en groupe très restreint, voire peut-être même seul et isolé, personne avec qui manger, partager, offrir des cadeaux. Mais devant toutes ces mauvaises nouvelles potentielles, laissez-moi vous donner un autre son de cloche et vous dire ceci. Oui, cette année, je peux vous assurer que nous aurons un Noël joyeux. Et donc, le titre de la prédication ce matin, nous aurons un Noël joyeux. Et si je peux vous assurer une telle chose, ce n'est pas parce que j'aurai des informations que vous n'auriez pas, ce n'est pas parce que je connais quelques membres du gouvernement ou que moi-même je serai prophète, non, ce ne sont pas pour ces raisons. Si je peux vous assurer une telle chose, c'est parce que j'ai eu l'information directement de la part de Dieu, le maître de l'univers. Et si le maître de l'univers dit que Noël sera joyeux cette année, alors on peut en être sûr, on peut être sûr que Noël sera joyeux. Et pour voir cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ésaïe au chapitre 9 et nous lirons les versets 1 à 6. Ésaïe 9, chapitre 9, versets 1 à 6. Lisons. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Notre premier point, la lumière dans les ténèbres, brille dans les ténèbres. Le prophète Ésaïe débute son ministère en l'an 740 avant Jésus-Christ, à un moment particulier de l'histoire du peuple d'Israël. En effet, à cette époque, Dieu, le Dieu d'Israël, n'occupe plus la première place dans le cœur de son peuple. Dieu a été remplacé, chose complètement inimaginable. Le Dieu sauveur, protecteur, bienveillant du peuple d'Israël a été abandonné. En effet, au fil des années, le peuple n'a pas arrêté de s'enfoncer toujours plus et toujours plus loin dans le péché, dans l'infidélité à Dieu. Jusqu'au point où le peuple a remplacé Dieu par d'autres dieux, de faux dieux, des dieux étrangers. Et cette infidélité, Dieu ne peut ni l'accepter, ni la tolérer. En effet, dans une alliance, parce que Dieu et le peuple d'Israël étaient liés par une alliance, l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, dans une alliance, lorsque l'infidélité est constatée, eh bien, il y a des conséquences. Et dans le cas de Dieu et de son peuple, les conséquences sont très lourdes, graves, tristes. Je vous invite à prendre avec moi rapidement Ésaïe au chapitre 1 pour voir quelles sont les conséquences de cette infidélité. Au chapitre 1 et verset 4, nous lisons « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. » Ils ont détourné leur regard de Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et donc, Dieu est en colère contre son peuple. Et dans sa colère, le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, va annoncer à son peuple qu'il va le délaisser, l'abandonner, comme le peuple l'avait souhaité. Dieu annonce à son peuple qu'il sera déporté et exilé dans un pays étranger. Dieu annonce qu'il va permettre la destruction, le ravage de Jérusalem et du Temple. Dieu annonce qu'il ne sera plus avec le peuple. Il ne sera plus leur protecteur, leur guide, leur conseiller, leur tendre père. Il ne sera plus cette lumière qui les guide. Dieu annonce à son peuple qu'il sera livré à lui-même. Et au verset 1 de notre texte, de notre passage ce matin, nous voyons qu'être sous la colère de Dieu, séparé de lui, loin de sa présence, ne plus l'avoir pour Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas une situation dans laquelle nous aimerions être. Regardez avec moi au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, ou encore ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. La situation du peuple d'Israël, infidèle à Dieu, est comparée à un peuple qui marche dans les ténèbres. Il ne voit rien, ne sait pas où il met les pieds, ne sait pas où il va. Il ressemble, oui, à un peuple qui habite le pays de l'ombre de la mort. Et donc, le sentiment que l'on doit éprouver, si on est dans cette situation, ça doit être terrible. Et cette situation m'a fait penser, cette situation que connaît le peuple d'Israël à cause de sa colère, à cause du péché du peuple, me fait penser à ma fille, Clémence. Peut-être que certains de vous la connaissent. Et c'est qu'un petit bébé de 7 mois. Et étant un bébé, Clémence est entièrement dépendante de mon épouse et de moi-même. Elle a absolument besoin de notre présence pour se sentir en sécurité, aimée, protégée, éduquée, guidée, conseillée, nourrie, dorlotée. Bref, Clémence, sans ses parents, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde pour elle. En effet, il n'y a qu'à voir son attitude, ses sentiments lorsque Olivia ou moi-même nous nous absentons, lorsque nous sommes loin d'elle, lorsque Clémence n'est pas en notre présence, eh bien, c'est quoi pour elle? C'est l'angoisse, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu, c'est la crainte, la peur, c'est le stress, c'est l'agitation, ce sont les pleurs, ce sont les hurlements. Loin de notre présence, Clémence est complètement perdue. Loin de notre présence, impossible pour notre fille d'être dans la paix. Car loin de nous, la sécurité de sa vie n'est plus assurée. Sa vie n'a plus de sens. Et ça, elle le sait, elle le comprend. Loin de la présence de Dieu, le peuple d'Israël ressemble à un bébé de 7 mois livré à lui-même. Loin de la présence de Dieu, le peuple d'Israël est complètement perdu. Loin de Dieu, impossible pour Israël d'être dans la paix. Car la sécurité de sa vie n'est plus assurée. La vie des Israélites n'a plus de sens. Mais vous allez me dire, mais en quoi tout cela nous concerne? Nous ne sommes pas des Israélites. Qu'est-ce que la désobéissance du peuple d'Israël, la colère de Dieu, le rejet de Dieu a à voir avec nous? Eh bien, c'est vrai, nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Mais cela n'empêche pas que nous soyons pleinement concernés par toutes ces choses. La désobéissance, l'infidélité à Dieu, le péché, la colère de Dieu, les ténèbres, le pays de l'ombre de la mort. Parce que regardez avec moi à la toute fin du verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel, le maître de l'univers. Dieu est non seulement le Dieu d'Israël, mais il est aussi le Dieu et le maître de tout l'univers. Il est le maître de tout l'univers. Ce qui veut dire que Dieu est non seulement le Dieu de tous les Israélites, mais aussi mon Dieu, ton Dieu, et en fait le Dieu de tous les peuples. Et donc, de ce fait, ces exigences de moralité, de sainteté, de bien pour le peuple d'Israël s'appliquent de la même manière à tous les êtres humains, sans distinction. Dieu exige la première place, non seulement dans le cœur des Israélites, mais aussi dans le cœur de chaque être humain qui peuple cette terre. La question maintenant que nous posons alors, c'est: est-ce que Dieu occupe la première place dans le cœur de chaque être humain? Eh bien, la réponse que Dieu donne est non. Car voici ce que Dieu dit à propos de l'humanité. Il dit: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Dieu est clair. Tous les hommes, à l'instar de son peuple, à l'instar des Israélites, ont un cœur rebelle à Dieu. Aucun ne recherche Dieu. Et on pourrait faire l'expérience tout de suite pour constater que Dieu n'est pas le maître de l'univers n'est pas au centre des préoccupations de l'homme. Nous connaissons, par exemple, nous connaissons tous les 10 commandements, n'est-ce pas? Eh bien, prenez par exemple le 10e commandement, où Dieu commande à chaque être humain de ne pas convoiter, de ne pas pécher par la pensée, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un pourrait prétendre avoir respecté ce seul commandement à la lettre durant toute sa vie? Personne. Il n'y a aucun être humain qui peut se targué d'avoir respecté à la lettre la loi de Dieu, les commandements de Dieu, sans jamais les avoir violés. Il n'existe aucun homme qui peut prétendre d'avoir été fidèle durant toute sa vie au maître de l'univers de manière parfaite. Aucun. Et donc, ce qui veut dire que tous les hommes sont coupables de désobéissance, d'infidélité à Dieu. Et donc, tous les hommes sont sous sa colère, en dehors de sa présence, séparés de lui. Nous sommes tous dans les ténèbres. Nous sommes tous dans le pays de l'ombre de la mort. Nous sommes tous pareils à des bébés de 7 mois qui n'ont pas de parents, qui sont livrés à eux-mêmes, qui vivent constamment l'angoisse, la peur, la crainte, l'insécurité permanente. Voilà quelle est la réalité de chaque être humain sur cette terre. Et voilà quelle est notre réalité sans Dieu, loin de Dieu. Mais fort heureusement, Dieu annonce dans ce verset 1 que ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Dieu annonce que ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, qui connaissaient la mort, ont vu une lumière briller. Dieu, le maître de l'univers, promet à son peuple, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui se confient en lui, une solution. Dieu promet une lumière salvatrice qui changera les ténèbres vers la lumière, qui changera la mort en vie. Oui, Dieu nous promet qu'il mettra un terme à nos angoisses, à notre stress, à notre peur, à notre crainte, à nos doutes, à la mort pour tous ceux qui lui appartiennent. Quelle nouvelle formidable, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle! Et donc, c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie du message. Nous allons voir quels sont les fruits apportés par la lumière de Dieu et aussi les caractéristiques de cette lumière. Quelles sont les caractéristiques qui nous permettront de reconnaître la lumière que Dieu enverra pour que nous puissions l'accueillir et pour voir en nous les ténèbres et la mort chassées. Et donc, la deuxième partie de notre message, les fruits apportés par la lumière et la caractéristique de la lumière. Et donc, tout d'abord, les fruits, ce que fera la lumière, donc les fruits qu'apportera cette lumière. Et donc, au verset 2, nous lisons « Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. » L'une des conséquences du péché des Israélites contre Dieu sera la décimation, la mort du peuple. En effet, à cause du péché, un grand nombre d'Israélites seront emportés et ils périront. Le pays sera dévasté, le peuple sera déporté et exilé en Babylone. Et donc, au cours de ces différents événements, beaucoup perdront la vie. Et donc, le peuple diminuera. Mais Dieu annonce que cela ne durera pas pour toujours. Car lorsque la lumière viendra et brillera au milieu des ténèbres, alors le peuple de Dieu qui était ravagé, dépouillé au temps de la colère et du rejet, prospérera, se multipliera et grandira de nouveau. Et nous savons, grâce au texte biblique, qu'à ce peuple d'Israël se joindront d'autres nations et ensemble, ils formeront le peuple de Dieu, un peuple joyeux, caractérisé par la joie, rempli de joie. Et donc, ce peuple qui sera caractérisé par la joie le sera, car lorsque la lumière apparaîtra, Dieu apportera la liberté et la sécurité face à la mort. Et nous voyons ça au verset 3. Nous lisons « Le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. » Quelle promesse incroyable et formidable, n'est-ce pas? Lorsque la lumière viendra et brillera, la mort ne pèsera plus sur les épaules du peuple de Dieu. La puissance de la mort ne frappera plus ceux qui se confieront en Dieu. La mort n'aura plus d'effet sur ceux qui appartiendront à l'Éternel. Le peuple de Dieu ne mourra plus jamais sous les coups de la mort, car celle-ci aura été brisée, vaincue par Dieu et par sa lumière. Lorsque la lumière apparaîtra, le peuple sera libéré et en sécurité face à la mort. En d'autres termes, il n'y aura plus de mort pour ceux qui sont le peuple de Dieu, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et donc, s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de crainte, plus d'angoisse, plus de peur à avoir face à la mort. Le peuple de Dieu sera caractérisé par une grande joie, car Dieu, par la lumière qu'il apportera, par la lumière apportera la paix pour toujours. Et nous voyons cela au verset 4, où nous lisons « Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. » L'humanité, tout au long de son histoire, à cause du péché, a connu et a perpétré des crimes, des guerres, des conflits, des disputes violentes. Et tous ces événements, eh bien, ça laisse des marques, des blessures, des cicatrices qui nous empêchent de vivre tranquillement, sereinement et dans la paix. Mais ce que Dieu annonce est tout bonnement incroyable, car lorsque la lumière viendra et brillera, eh bien tous les conflits, tous les souvenirs de conflits seront jetés au feu pour être définitivement détruits. Rien de tout cela ne subsistera. Toute forme d'oppression disparaîtra, car la lumière aura la victoire et mettra fin à tout cela. Oui, Dieu promet que son peuple ne connaîtra plus de conflits, ni le souvenir de ces conflits. À la place, Dieu donnera à son peuple une paix réelle et profonde qui dure éternellement. Voilà ce que fera Dieu pour son peuple lorsque la lumière viendra et brillera dans les ténèbres. Il multipliera son peuple. Il le fera prospérer. Une grande joie se dégagera de ce peuple, car il sera libéré et en sécurité face à la mort, car ce peuple connaîtra une paix réelle et profonde. Et donc, face à de telles promesses glorieuses, on se dit, comment faire partie de ce peuple? Nous voulons faire partie de ce peuple. Nous voulons voir cette lumière briller dans les ténèbres de nos vies. Nous voulons être arrachés de ce pays de l'ombre de la mort pour connaître la vie. Nous voulons accueillir cette lumière de Dieu. Eh bien, pour pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir la reconnaître en ayant connaissance de ses caractéristiques. Et donc, nous allons voir dans le verset 5 quelles sont les caractéristiques de cette lumière. Quelle est cette lumière? Qui est cette lumière? Eh bien, nous allons voir que c'est un homme, pas comme les autres. Et donc, quelle est cette lumière, quelles sont ses caractéristiques, nous devons décortiquer ensemble le verset 5. Et donc, lisons ensemble le verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Tout d'abord, nous apprenons que cette lumière qui nous est donnée gratuitement est un enfant. C'est un enfant. Et donc, comment comprendre cela? Eh bien, tout d'abord, cela nous informe de la faiblesse de la lumière donnée par Dieu. Faiblesse dans le sens où lorsque cette lumière viendra, elle n'aura rien d'impressionnant. Elle n'aura rien d'éclatant. Elle n'aura rien de grand ni de spectaculaire. Non, juste un enfant dans toute sa faiblesse, dans toute sa fragilité. Deuxièmement, le fait que la lumière soit un enfant nous informe sur la lignée humaine de la lumière salvatrice envoyée par Dieu pour sauver son peuple. C'est-à-dire que la lumière sera entièrement et pleinement homme à 100%. Et la raison pour laquelle la lumière doit être de la race humaine, de notre nature, c'est-à-dire comme nous, c'est parce qu'il n'y a qu'un homme qui soit capable de saisir et de comprendre toute la douleur, toute la souffrance, toute l'angoisse, toute la misère humaine. Seul un homme peut compatir et venir à l'aide d'un homme en souffrance. Si la lumière avait été d'une autre nature, c'est-à-dire par exemple de la nature des anges, eh bien il n'y aurait pas eu d'aide, pas de libération, pas de salut possible pour les hommes qui sont retenus dans les ténèbres et retenus dans le pays de l'ombre de la mort. En effet, ce serait comme demander à un chien de venir consoler un homme dépressif. Essayez, ça ne marche pas. Ça n'a aucun effet, car le chien n'est pas de la même nature. Il ne peut pas venir en aide à cet homme. Il faut que ce soit un homme qui aide un autre homme, parce qu'il comprend, il compatit et peut lui venir en aide. Et donc, il est clair que la lumière qui sera donnée et envoyée par Dieu est donc un homme à 100%. Et il doit être, cette lumière doit être un homme. Mais ce n'est pas tout. La lumière sera de la lignée des hommes, mais elle ne sera pas un homme comme les autres. Cette lumière se différenciera de tous les autres hommes, car la lumière sera un homme qui possédera tous les attributs de Dieu. Et pour voir cela, continuons le verset 5, où on voit qu'on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet homme aura la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il sera appelé merveilleux conseiller, c'est-à-dire qu'il n'aura besoin de personne ni des conseils de personne pour toujours faire ce qui est juste, bon et vrai. Cet homme pourra accomplir des miracles et des prodiges, guérir des aveugles, des paralytiques. Il pourra ressusciter des morts pour les ramener à la vie, car il sera appelé Dieu puissant. Il aura la puissance de Dieu pour faire cela. Cet homme sera adoré, servi et craint, car il sera appelé Père éternel. Par cette expression, il ne faudrait pas comprendre que cet homme sera le Père éternel, c'est-à-dire Dieu le Père, mais plutôt comprendre qu'il sera l'égal de Dieu le Père. Cet homme sera divin, à l'égal de Dieu. Pas plus, pas moins, il sera l'égal de Dieu. Cet homme sera capable d'offrir la paix, la réconciliation entre Dieu et les hommes de manière parfaite et durable à cause de sa double nature, à la fois homme et Dieu. Il fera le lien, le pont entre Dieu et les hommes, car il sera capable, grâce à sa double nature, de représenter à la fois Dieu et à la fois les hommes. Et donc on l'appellera le Prince de paix. On sait aussi que, à partir du verset 6, on apprend que cet homme viendra pour établir un royaume éternel où le péché et le mal n'existeront plus. où les morts ne seront plus, où l'on n'entendra plus de pleurs ni de cris, un royaume où la paix et la joie dureront pour toujours, un royaume où le droit et la justice triompheront pour toujours, un royaume parfait, sans péché, sans ténèbres, sans mort. Voilà à quoi nous reconnaîtrons cette lumière que Dieu enverra par amour pour sauver son peuple. Cette lumière viendra au monde en tant qu'enfant, dans toute sa faiblesse, dans toute sa fragilité, dans toute son humanité. L'enfant grandira, se fortifiera, deviendra un homme pour montrer et manifester au monde toute sa puissance et sa divinité, en chassant et en ayant la victoire sur les ténèbres et sur la mort. Un tel homme, qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, qui vient pour établir le royaume éternel, parfait et glorieux de Dieu, eh bien, il n'y en a pas des masses dans l'histoire de l'humanité. À vrai dire, il n'y en a qu'un seul qui remplit tous ces critères. Et cet homme, c'est Jésus. Et donc, si nous connaissons déjà l'identité de la lumière qui vient pour éclairer les ténèbres, cela veut dire que la promesse de Dieu qui a été faite à Ésaïe il y a des millénaires, eh bien, s'est réalisée. La bonne nouvelle est déjà là. Nous pouvons, dès aujourd'hui, accueillir la lumière, Jésus, dans nos vies pour échapper aux ténèbres et à la mort, pour connaître une paix et une joie durable, éternelle et profonde, pour avoir un accès au royaume glorieux et parfait de Dieu. Oui, nous pouvons avoir cela dès à présent, une joie parfaite et profonde. Ce qui nous renvoie à la question que nous nous sommes posée en tout début de prédication. Aurons-nous un Noël joyeux cette année? Aurons-nous un Noël joyeux cette année? Eh bien, pour nous chrétiens, qui avons répondu à l'appel de Dieu, qui avons placé notre foi dans cette lumière qui est Jésus-Christ, qui sommes déjà sous la lumière et la grâce du Seigneur, qui avons donné notre vie entière au Seigneur, eh bien, la réponse est clairement oui. Et mille fois oui, nous aurons un Noël joyeux cette année. Et cela même si toutes les fêtes devaient être annulées, même si nous étions empêchés de retrouver nos familles, à cause d'un possible confinement, même si nous étions empêchés d'avoir un bon repas, des accolades chaleureuses, une multitude de cadeaux, des guirlandes qui scintillent, même si nous étions privés de tout cela, nous aurions tout de même un Noël extrêmement joyeux. Car la lumière brille sur ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Oui, ils sont aujourd'hui libérés et en sécurité face à la mort. Ils ont une paix profonde, ils ont la vie éternelle en Jésus. Et nous sommes de cela. Nous sommes de ceux qui ont vu la lumière briller dans les ténèbres de nos vies, alors que nous étions morts spirituellement. Nous avons vu la lumière briller. Alors, cela doit nous remplir de joie. Nous devons nous réjouir comme le verset 2 nous l'indique. Réjouissons-nous comme on le fait lors du jour de la moisson, lorsqu'on partage un butin. Nous avons reçu ce qu'il y a de plus beau, la lumière de Dieu en la personne de Jésus. Pour toi qui n'es pas chrétien, auras-tu un Noël joyeux? Eh bien, la réponse est non. Tu n'auras pas un Noël joyeux si tu restes loin de Dieu, loin de sa lumière, loin de Jésus. Et cela même si tu t'entoures de guirlandes scintillantes, de lumière, de chaleur humaine, de famille, même si on te couvre de cadeaux, de tout l'argent du monde, non, ton Noël ne sera pas joyeux. Il ne peut pas l'être, car sans Dieu dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Tu es dans le pays de l'ombre de la mort. Sans Dieu dans ta vie, tu es mort. Et donc, dans une telle situation, impossible pour toi d'avoir la paix, d'avoir la joie en ce Noël, et pas uniquement pour le jour de Noël, mais pour tous les jours de ta vie, tu ne peux pas être dans la paix ni la joie. Dans une telle situation, tu ressembles à un bébé de 7 mois, sans parents, et livré à toi-même, constamment dans la peur, l'angoisse, la crainte, le stress et la tristesse. Mais bonne nouvelle, cette situation peut vite changer. Et Dieu veut la changer et il l'a changée pour toi. Et pour cela, porte ton regard sur Jésus, la lumière du monde. Place ta confiance en lui. Donne-lui toute ta vie et lui viendra changer ta vie. Il te fera passer des ténèbres à sa glorieuse lumière. Il te fera passer de la mort à la vie. Il te fera passer de ta profonde tristesse à une joie immense que lui seul accorde. Alors, n'attends plus pour avoir un Noël joyeux et heureux. N'attends plus pour avoir, en fait, une vie tout entière joyeuse et heureuse. Donne toute ta vie au Seigneur Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te louons, car nous qui marchions dans les ténèbres, nous qui habitions le pays de l'ombre de la mort, nous qui étions morts, loin de toi, séparés de toi, eh bien tu as fait briller sur nous ta lumière glorieuse. Oui, tu nous as fait connaître cette lumière en la personne de Christ. Et merci parce que Christ nous a libérés, nous a mis en sécurité face à la mort et que nous ne connaîtrons plus la mort. Au contraire, nous serons constamment vivants, éternellement auprès de toi. Nous te remercions parce que nous sommes dans la paix et nous connaissons une paix réelle et profonde. Et toutes ces choses, eh bien, nous transportent de joie. Et nous savons que même si tout devait fermer demain et que nous serions coupés de nos amis et de nos familles, eh bien, nous serions joyeux et heureux, car nous avons avec nous Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et nous te prions pour ceux et celles qui n'auraient pas encore donné leur vie à Jésus, que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses leur permettre de comprendre l'urgence et la nécessité de le faire, et qu'ils puissent le faire, si cela est ta volonté, le plus rapidement possible, pour vivre non seulement un Noël joyeux, mais une vie tout entière et éternelle dans la joie et dans la paix en ta présence. Et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.